إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc inshallah ta'ala nous commençons une nouvelle série de cours après avoir terminé le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala sur la croyance et le suivi, qui avait donc pour titre 21 hadiths dans la croyance et le suivi. Donc walillahi alhamd wal minna, nous avons terminé le livre et aujourd'hui donc nous commençons un nouveau livre, et notre choix s'est porté sur شرح الأصول الثلاثة للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. Donc aujourd'hui, inshallah, nous commençons notre premier cours dans l'explication des trois fondements de Cheikh Obeid al-Jabiri. Comme vous le savez certainement déjà, le livre de base, les trois fondements, c'est un livre qui a été écrit par Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et l'explication que nous faisons ici, donc, ou que nous allons étudier ensemble, c'est l'explication de Cheikh Obeid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Donc il est un cheikh contemporain. Inch'Allah, vous pouvez trouver des biographies nombreuses sur Internet. Je n'ai pas prévu de faire une biographie du cheikh. Inch'Allah, pour ceux qui veulent revenir, Inch'Allah, c'est un cheikh qui est connu parmi les cheikhs de Médine, qui enseignait à l'université de Médine et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, encore donne des drosses dans la ville de Médine. Donc nous commençons directement sa parole par son introduction. مقدمه الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وسع كل شيء رحمة وعلما وقهر كل شيء عزة وحكما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا شرح مختصر للكتاب النافع الماتع النفيس الموسوم ب الثلاثة الأصول للإمام مجدد الدعوة السلفية في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وأعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أهل التوحيد والسنة خير ما يجزي به عالما عن أمته. وكان هذا الشرح مسجلا على أشرطة، وقد قام بجمعه مشكورا تلميذنا وصاحبنا أبو الحارث محمد بن غالب بن حسان العمري اليمني، ومن ثم قام بعرضه علي فحذفت منه وزدت عليه وأصلحت من العبارات ما رأيت أن إصلاحه مهم جدا. ثم قام الأخ محمد من بعد بما يأتي. أولا، عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الصور. ثانيا، تخريج الأحاديث وبيان الحكم عليها، سواء في ذلك أحاديث الكتاب وشواهدنا. ثالثا، وضع فهرس أو فهرس تفصيلي للموضوعات التي احتواها الكتاب، وسميته إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول. والله أسأل أن يعم بنفعها أهل الإسلام، وأن يجعل عملي فيه خالصا لوجه الكريم، وأن يجزي صاحبا أبا الحارث خيرا لقاء ما بذله من جهد في إخراج هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وحرر في صباح 12 من رمضان عام 26 و400 ألف للهجرة، وكان بالمدينة النبوية. Donc, Inch'Allah, on va chaque fois essayer de couper Inch'Allah en différentes parties. On vous demande la patience, comme je vous dis toujours, pour le texte en arabe. Inch'Allah, ça fait qu'on travaille notre arabe en même temps. Et donc, on traduit directement la parole de Cheikh Abel Jabir dans son introduction. Il nous dit, ceci est une explication concise du livre bénéfique, excellent, précieux, ayant pour titre les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha, de l'imam, revivificateur de la prêche salafia, Al-Da'wa salafia, à la moitié du XIIe siècle égyrien, et c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Al-Tamimi, Al-Najdi, Rahimahullah Ta'ala, qu'Allah lui fasse grande miséricorde, et qu'Allah le récompense de ce qu'il récompense le mieux un savant. Donc cette explication a été enregistrée dans des cassettes. Donc le Cheikh ici nous explique en fait comment le cours a commencé. C'était un cours en fait qui a été enregistré dans des cassettes. Et notre élève et ami, donc c'est Cheikh Obed toujours qui parle, Abu al-Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umar al-Yamani, donc un de ses élèves et un de ses compagnons du Cheikh Obed, qui s'appelle Abu al-Harith, qui est un frère yéménite, donc s'est occupé à regrouper ce cours et ensuite à le présenter au Cheikh. Donc comme le dit le Cheikh ici, il dit, il s'est occupé à la regrouper donc, et ensuite à me la présenter. J'ai ensuite, donc c'est toujours Cheikh Obed qui parle, j'ai ensuite rajouté des choses et enlevé d'autres. Et j'ai ensuite corrigé certaines paroles dont j'ai estimé la correction très importante. Le frère Mohammed, Abu al-Harith, s'est ensuite appliqué à. Donc Cheikh ici nous explique en fait quel est le travail de ce frère, pour justement éditer ce livre. Premièrement, c'est rapporter à quel endroit se trouve dans le Coran chaque verset coranique cité dans l'explication. Parce qu'évidemment, le Cheikh a cité des versets du Coran, a utilisé des preuves du Coran. Et bien le frère, justement, après, quand il a fait ce qu'on appelle le tafrir min al-asrita, c'est-à-dire qu'il a pris les paroles dans les cassettes et qu'il les a mis par écrit, eh bien, il s'est attaché à chaque verset cité à le replacer dans sa sourate. Donc, c'est pour nous faciliter justement le fait de retrouver ce verset-là, d'accord ? Deuxième chose qu'a fait donc ce frère-là, Jazallahu Khairan, c'est faire ce qu'on appelle le tahrij. Et après le livre de Cheikh Rabi, maintenant, c'est quoi un tahrij, C'est-à-dire le tahrij des ahadiths. On pourrait dire que c'est le fait de citer les sources, on se rapporte ces ahadiths et donner le jugement sur chaque hadith en termes d'authenticité, que ce soit les hadiths du livre même ou ceux cités dans notre explication. C'est-à-dire que le frère, il s'est attaché à quoi ? À rapporter chaque hadith qui a été cité dans le livre de Usul Thalatha de Muhammad al-Wahhab et également chaque hadith qui a été cité dans l'explication de Cheikh Obed al-Jabiri, il s'est attaché à faire ce qu'on appelle le tahrij. Par exemple, si le hadith a été rapporté par le Bukhari, eh bien il dit voilà, si le hadith a été rapporté par le Bukhari dans le Kitab al-Iman, chapitre 2, numéro du hadith, un tel, etc. Et il s'est même attaché à faire cela avec les hadiths qui ont été cités par Cheikh Obed lui-même dans son explication. D'accord ? Et il s'est attaché aussi à donner le degré du hadith, c'est-à-dire à parler au niveau de l'authenticité du hadith, pour savoir s'il est hassan ou sahih ou da'if, etc. D'accord ? Troisièmement, donc troisième chose que le frère Jazallahu Khairan a fait, Abu al-Harith, al-Yamani, c'est donc mettre en place un glossaire, donc à la fin, un glossaire détaillé qui reprend tous les sujets traités dans ce livre pour nous faciliter justement à revenir justement si on cherche par exemple un sujet bien précis dans le livre, à la fin, eh bien, on a un glossaire qui reprend tous les sujets traités dans le livre et on peut donc retrouver la page. D'accord ? Donc, Cheikh nous dit, continue en disant, Cheikh Abed al-Jabiri, hafidhahullah, dit, j'ai appelé cette explication « Ithaful uquli bi sharhi thalatat al-usul ». Donc, c'est le nom qu'il a donné à l'explication de thalatat al-usul. Et Cheikh termine en disant, en faisant une doua, une invocation, je demande à Allah qu'il fasse qu'il soit bénéfique, à son explication, et à tous les musulmans, et qu'il fasse que mon travail soit sincère pour lui, et qu'il récompense notre compagnon Abu al-Harith pour les efforts qu'il a fournis pour éditer ce livre. Et donc il termine en disant, écrit par Ubayd ibn Abdullah ibn Sulayman al-Jabiri, ancien professeur à l'université islamique de Médine, et ça a été écrit donc le matin du 12 du mois de Ramadan 1426 de l'Hégire à Médine. Donc on commence directement de ce qu'on appelle le matn, donc on rentre directement dans le livre de Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, et il commence en disant بسم الله الرحمن الرحيم. وبيان كومونس نو ديزون بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، عليكم السلام. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الآذى فيه. Et avant de traduire ce maintenant, je voudrais donner un conseil à mes frères et mes sœurs en islam, c'est d'étudier ce maintenant par cœur. Hein? Comme je vous avais dit dans les premiers cours qu'on a fait, hein? Et c'est bon pour la langue arabe, c'est bon pour la mémorisation et aussi pour la da'wah. Si on n'a pas le livre devant nous, qu'on veut rapporter des masaïl aux gens, c'est, hein, comme certains salafs disaient, la science c'est ce que tu rentres avec toi aux toilettes. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer d'un livre avec nous aux toilettes, d'accord? Par contre, c'est ce qu'il y a dans ta poitrine. C'est ça qui est voulu en fait ici. C'est la science, c'est ce que tu portes dans ta poitrine. On avait cité des paroles de savants dans les premiers cours qu'on avait fait. C'est que la science, c'est la mémorisation et la compréhension. Et ça, c'est la meilleure des méthodologies. Hein? Et c'est un livre qui est étudié dans certains pays musulmans, comme au Maroc, comme on l'a vu, dans d'autres pays, etc., par des enfants de 6-7 ans, hein, qui le connaissent par cœur et qui connaissent d'autres livres par cœur. Donc c'est un livre qui est facile, qui utilise un arabe vraiment à portée de tout le monde. Hein? Et qui s'adresse aux débutants, parce que c'est le premier livre que les ulama enseignent dans la aqida. Hein? Et quand vous étudiez la biographie des mashayikhs, vous allez voir qu'ils ont en général tous commencé par l'usul talata. Et même qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Hein? Et c'est pour ça que vous retrouvez les chouyours, que vous retrouvez plusieurs explications de l'usul talata. Hein? Donc je vous conseille vivement, et de commencer dès maintenant pour que la matière ne s'accumule pas, c'est d'étudier ce matin-là. Et je vous assure que ça reste. Et c'est des choses de base qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Surtout quand on touche ici au domaine du tawhid. Et regardez, on va le voir ici, c'est quoi directement les premières masaïl? C'est l'ilm, c'est quoi? Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et ma'rifatu nabiyyi, la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam. Wa ma'rifatu dini l'islami bil adillah. Et les connaissances de l'islam par les preuves. Hein? Donc il conviendrait vraiment, c'est quelque chose, je vous assure, de très facile à porter tout le monde. Il faut juste dire bismillah et se lancer, inshallah. Hein? Et commencer à le faire. Il n'y a pas de secret, hein? Il faut travailler, ça c'est clair. Mais Inch'Allah, ça vient s'entrer d'entre frères et sœurs, hein, comme on a vu certains frères, certains sœurs à Nice, où on a entendu en tout cas pour les sœurs, qu'elles se regroupaient, qu'elles étudiaient le Usul Talata, et c'est les assemblées qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Hein, d'accord? Donc, la parole de Muhammad al-Wahhab, rahimahullah alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, donc l'auteur, Muhammad al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. La première, c'est la science, et c'est la connaissance d'Allah, et la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, c'est sa mise en application. La troisième, y appeler les gens, c'est-à-dire appeler les gens à cette science, et à cette mise en application. On va le voir, Inch'Allah, dans l'explication. La quatrième, c'est patienter quant au tort encouru lors de cet appel. Alors maintenant, on lit directement la parole de Cheikh Abd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, qayyumus samawati wal ardin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu al-amin, sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa qawlu al-Sheikh rahimahullah, i'lam rahimakallah ila akhirih, hadhihi al-jumlah اعتاد كثير من أهل العلم تصدير كتبهم بها لما تشتمل عليه من لفت النظر أعني في قوله اعلم فهو أمر وتنبيه تنبيه السامع لما يلقى إليه من الكلام لأهميته كما أن الجملة تشتمل على الدعاء بالرحمة للمخاطب رحمك الله وهذه المسائل تتعلق بالعمل أربع مسائل وهي مسائل عملية في الدين. Donc qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici, حفظه الله تعالى, Cheikh Abd al-Jabiri, il dit la parole du Cheikh Mohamed al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, sache qu'Allah te fasse miséricorde jusqu'à la fin de sa parole, hein, c'est-à-dire etc. Beaucoup de gens de science ont pris l'habitude de commencer leur livre par cette parole. Parce qu'elle attire l'attention. Hein, quand je te dis i'lam, sache, j'attire quoi? J'attire ton attention. C'est-à-dire que dans sa parole sache, il y a un ordre. Et le fait de capter l'attention de celui qui entend cette parole pour qu'il prête attention à ce qu'il va être dit d'important. Et vous voyez que dans le style, les ulama, quand ils utilisent un style, c'est pas pour n'importe quoi, c'est parce que, hein, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent. Vous voyez, rien que dans le style du mot sache, il y a des choses à tirer de cela. Et ça devrait nous parler directement. C'est-à-dire, quand on entend ça, eh bien, on devrait prêter l'attention justement parce que ce qui va être dit est important. Donc, et le cheikh continue en disant, cette phrase comprend également une invocation de miséricorde pour celui à qui la parole est adressée. Alors, qui sait me dire ici, parmi les frères qui sont présents, qui sait me dire ici, d'où le cheikh a tiré cela? Rahimakallah, naam. Sache, i'alam, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Donc, il y a une dua pour celui à qui la parole est adressée. Rahimaka, hein? Le damir ici, le pronom personnel, hein, on voit bien que c'est le mukhatab, celui à qui est adressé la parole. I'alam rahimakallah. Hein? Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh? Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et Cheikh continue en disant que ces quatre choses sont liées à la pratique et ce sont des choses à mettre en pratique de la religion. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on doit simplement apprendre, mais c'est des choses qu'on va le voir, Inch'Allah, dans ce cours aujourd'hui. C'est des choses à mettre en pratique. Et je vous avais rapporté ça dans les premiers cours. Que la science, on ne l'apprend pas pour la science, on l'apprend pour l'appliquer. Hein? Et je vous ai apporté, même notre frère Abou Khadija, ici dans la khutbah, a encore rappelé ça. C'est le fait de ce qu'on appelle zakat l'ilm. Hein? C'est le fait d'appliquer cette science-là. Et c'est ce qui nous manque d'ailleurs à tous. Cheikh continue en disant qawluhu al-ula al-ilmu wa huwa ddu al-jahli huwa idrak haqiqati ash-shay'i 'ala ma hiya 'alayhi idrakan jazima thumma fassara al-ilm fa qala wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Ma'rifatu Allah hiya al-iman bih wal-iman billah يقتضي الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بأنه رسول من الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة وتلكم القاعدة الأصل في العبادة المنع إلا بنص. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. Il dit sa parole, c'est-à-dire qui? La parole du cheikh Mohamed Al-Wahhab. La première de quoi? Non, mais c'est quoi? Des quatre choses, hein? La première des quatre choses, parce qu'il a dit quoi dans le livre au début? I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-oula, la première. Al-ilmu, wa huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din l'islami bil adillah. Al-thaniya, l'amalu bihi. Al-thalitha, al-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah, al-sabru ala al-adha fihi. Donc vous voyez qu'il y a quatre choses ici, c'est quoi? La première, c'est la science. Et définit la science. La science, c'est le contraire de l'ignorance. J'avais rapporté un poème une fois, en tout cas une strophe d'un poème, qui disait que, hein, avec les contraires apparaissent les choses. Hein? D'accord? Donc ici, c'est le contraire, c'est l'ignorance. Donc si on veut connaître la science, eh bien on connaît son contraire, c'est l'ignorance. Et c'est le fait, donc la science, de comprendre la réalité d'une chose comme elle est réellement. Et d'une compréhension catégorique. Idra kushay ala ma hiya alayhi idrakan jazima. Ça, c'est des définitions à connaître par cœur. Et vous voyez que là, j'ai fermé le livre. Hein, et je vais, Inch'Allah, jamais vous conseiller une chose que je n'ai pas déjà fait moi-même. Hein, je vous assure, c'est des ta'arifs qui restent pour la vie. Hein, si on te demande c'est quoi la science, tu sors cette phrase-là. Hein, et si vous voulez avoir plus de détails dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, il rapporte maratib al-ilm. Hein, les différents degrés de l'ilm. D'accord? Et continue ensuite, il a ensuite expliqué ce qu'était cette science en disant « Wa huwa et c'est la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, et la connaissance de son prophète, wa nabiyhi, alayhi sallallahu alayhi sallam, et la connaissance de la religion, de l'islam avec les preuves, wa ma'rifatuddin l'islam bil adilla. La connaissance d'Allah, c'est de croire en lui. Qu'est-ce que c'est ma'rifatullah? Donc on a défini la science. Faut toujours avoir cette structure dans la tête, comme je vous dis toujours, en tant que talib ilm. C'est quoi la science? C'est ma'rifatullah, wa ma'rifati nabiyhi, alayhi sallallahu alayhi sallam, wa ma'rifatuddin l'islam bil adilla. C'est quoi ma'rifatullah? C'est l'imanu bih. C'est le fait de croire en lui. Et la croyance en Allah implique la croyance en son existence. Et la croyance en sa seigneurie, rububiyatihi. La croyance en sa divinité, uluhiyatihi. Et la croyance en ses noms et en ses attributs, asma'ihi wa sifatihi. Cheikh continue en disant, et la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est la croyance qu'il est le messager d'Allah. Alayhi afdalu salatu wa atamu taslim. Et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ici, regardez, cheikh, comment il nous sort des règles. Et ça, c'est un bienfait de revenir aux savants, c'est qu'il nous aide à construire notre religion sur des règles. Regardez directement comment sortir une règle. Et wallah, et c'est une règle très importante. Retenez-la, mémorisez-la, appliquez-la, comprenez-la. Et c'est une chère que Cheikh Falah Ismail, notre Cheikh Hafidahullah, quand il est venu ici l'été passé, nous a rapporté. Hein? Il a rapporté les trois règles d'ailleurs qui vont l'une avec l'autre. Hein? Sur l'aqaïd, l'ibadat ou l'mu'amalat. Et ici, il parle de l'ibadat. Il a dit, mais Cheikh, cette phrase est une indication vers la règle que les savants ont extraite, ce qu'on appelle istinbat. Istinbataha al-ulama, d'où? Min al-kitab wa sunnah. Du Coran et de la sunnah. Cette règle qui dit, al-aslu fil ibadati al-man'u illa binas. Très très important. C'est quoi? La base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que je ne fais pas l'adoration tant qu'il n'y a pas un texte. Parce que s'il n'y a pas de texte, ça s'appelle une bid'a, une innovation. Barakallahu fikoum. D'accord? Cheikh continue en disant, فَالتَّدَيُّنُ وَتَقَرُّبُ وَتَعَبُّدُ لِلَّهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ فَلَيْسَ لِلِاجْتِهَادِ مَجَالٌ فِي ثِبَاتِ شَيْءٍ مِنَ التَّعَبُّدِ وهذا الدليل إما كتاب وإما سنة وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله أمر بكذا يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه وأخرج هذا يعني أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب كيف المسح وصحه الألباني العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الدين بالدليل وكان الإمام مالك رحمه الله يقول بعد درسه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أهل السلفية يزينون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. Pour ceux qui veulent le tahrij, يعني de la parole l'imam Malik, c'est rapporté par Sira Alam Nubala, on dort Sira Alam, l'imam Dahabi dans Sira Alam Nubala, وروي هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله لأبي داود قال سمعت الإمام أحمد يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce que le Cheikh Obed al-Jabiri nous dit ici et qui est très très important? C'est la base, on a dit la règle, c'est la base dans les adorations, c'est l'interdiction, sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de cette base, sauf s'il y a un texte. Le fait donc de pratiquer la religion et de se rapprocher d'Allah, ce qu'on appelle le tadayyun wa taqarrub ila Allah, et d'adorer Allah wa ta'abbud lillah, ne se fait qu'avec un texte authentique, explicite. Il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation dans l'affirmation de quelque chose dans le domaine de l'adoration. Et ce texte, cette preuve, est soit un verset coranique, soit une sunna, un hadith. C'est un des sens du mot sunna, comme Cheikh Mohamed Al-Abbad nous l'a rapporté dans l'Arba'a An-Nawawiyya. Soit un consensus, une unanimité, ce qu'on appelle un ijma', rapporté des pieux prédécesseurs, des salaf salih de notre communauté. Qu'Allah a ordonné telle ou telle chose. Donc, un verset, un hadith ou un ijma'. C'est ça le nas que le Cheikh a voulu dire ici. Hein? Et il dit, il est rapporté du prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu ardah, qu'Allah l'a gré, qu'il a dit, si la religion était avec l'opinion, la raison, le dessus des pieds, le dessous des pieds, le dessous, hein, serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est lors des ablutions. Ce qu'on appelle le masha, comme tu as dit, Ari. Et c'est rapporté par Abu Daoud, livre de la purification, chapitre de la manière de faire le masah, comme tu as dit justement, et c'est numéro 162. Et cela a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, hein, qui est spécialiste en la matière, rahmatullah alayh, à cette époque-ci, dans Irwa Al-Ghalil, numéro 103. Cheikh continue en disant, les imams de la communauté, les imams de l'islam, parmi les gens des quatre écoles et autres, sont tous d'accord, ce qu'il faut comprendre donc, sont unanimes, sur le fait que la religion est par les preuves. Retenez ça. Quand on vous dit pourquoi, oui, mais vous, c'est toujours délil, tu fais, akhiya, l'unanimité des imams, là, tu dis que la religion, c'est par les preuves. Hein? Et justement, Cheikh nous cite quelques paroles d'imam ici. Il dit, l'imam Malik, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit après son cours, il y a dans toute parole à prendre et à rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe. Et Malik, où est-ce qu'il vivait, rahmatullah alayh? À Médine, où est-ce qu'il enseignait? Hein? Al-Masjid Nabawi. Hein? Donc quand il a dit dans cette tombe, il parlait de la tombe de qui? Du prophète, ça. Mais c'est ce que dit Cheikh Obed ici. Il dit, il y a dans toute parole à prendre et à rejeter, sauf la parole de celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète, ça. Ya'ni al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Et pour les références, voir Siyar al-Alam al-Nubala, hein, de l'imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi, volume 8, page 93, page 93. Et cela a été rapporté de l'imam Ahmed également. Qu'Allah lui fasse miséricorde, comme on le voit dans le Masail de Abu Daoud, hein, page 276, il dit, j'ai entendu l'imam Ahmed dire, il n'y a personne sans que l'on on prenne son opinion ou la rejette, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ni le prophète, tout ce qu'on vient de lui, on prend. En dehors de lui, il y a à prendre et à rejeter. Et c'est pour cela que les gens de la sunna et du consensus, ahlu sunnati wal jama'a, hein, les gens de la salafia, et une petite faïda en passant que Cheikh Abed rapporte pas ici, mais d'autres machins rapportent, pourquoi est-ce qu'on dit ahlu sunna wal jama'a? C'est des termes qu'il faut comprendre. C'est pas des noms que, hein, c'est des noms qui désignent un groupe. Mais c'est des noms qui sont légiférés, contrairement au nom de la hizbiya. Hein, les ulama disent ahlu sunna wal jama'a, li'annahum mutamassikuna biha, mujtami'una 'alayha. Parce qu'ils sont attachés à la sunna, regroupés autour de la sunna. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la sunna, c'est pas la hizbiya. Cheikh dit en disant un autre nom, les gens de la salafia, qui est un des autres noms des gens de la vérité. Hein? C'est-à-dire que ceux qui se revendiquent des salaf salih. Donc, les gens de la sunna wal jama'a, hein? Les gens de la sunna du consensus, les gens de la salafia, pèsent, mesurent les paroles des gens et leurs actions sur deux balances uniquement. Hein? Et ça, c'est très important de comprendre ça. Cheikh continue en disant, regardez en peu de lignes, comment est-ce qu'on a pris déjà au sol. Et ça, c'est, hein, la préscience, le bien, de revenir au grand savant, al-alam rabbaniyoun, hein, de la communauté comme Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh? وَذَانِكُمْ الْمِزَانَانْ هُمَا النَّصُّ وَالْإِجْمَعُ. N'importe quelle parole, n'importe quelle croyance, n'importe quelle, hein, tu revois à ces deux balances-là. النَّصُّ وَالْإِجْمَعُ. Cheikh va expliquer. فَالنَّصُّ يَشْمَلُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ وَافَقَ نَصًّا أَوْ إِجْمَعًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَعًا رُدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ. très très importante. Wallah, ya ikhwa. Vraiment, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est vraiment un asl azim parmi les usul d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est quoi? C'est ces deux balances qu'on a dit sur lesquelles on mesure, hein, les gens, les paroles des gens et leurs actions. C'est quoi? C'est le texte et le consensus. An-nas wal ijma'. Le texte et l'unanimité. Et le texte comprend le Coran et la Sunna. Al-kitab yashmalu al-kitab wa sunna. Celui donc qui est conforme à un texte ou un consensus, une unanimité, sa parole ou son action est acceptée. Et celui qui transgresse un texte ou un consensus, sa parole et son action sont rejetées. Est-ce que c'est clair ça? Très très important ça. Hein? Et les illustrations de ça, les exemples de ça sont innombrables. Hein? D'accord? Avec les preuves, donc je continue en disant bil adilla al-wuquf 'inda ad-dalil fi at-ta'abbudi. Hada huwa shart al-mutaba'a li'anna kull 'ibadatin la budda laha min shartayn hatta tanala 'inda Allah al-qabul. وذانكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Encore des usul, encore des règles ici. C'est quoi, qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Hein? Avec les preuves. Pourquoi est-ce qu'il dit avec les preuves? Qui sait me rappeler? Pourquoi est-ce que le cheikh dit avec les preuves ici? Barakallahu fik. C'est quelle des choses, c'est quand il a dit. Voyez là, regardez le hifd comment il joue. On va le dire ensemble de mémoire. Ya'lam rahmakallah anna yujibu alayna ta'allum arba' masail. Al-oula al-ilmu wa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Hein? C'est ça. Bil adilla, avec les preuves, c'est-à-dire que l'on s'arrête dans l'adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve. On revient à quoi? La règle qu'on a émise il y a quelques instants, qu'on a cité quelques instants, c'est laquelle? Qui sait la répéter en arabe ou en français? Non, la règle que j'ai rapportée vis-à-vis de ça, qu'on ne fait pas tant qu'il n'y a pas un texte, hein? La base dans les adorations, c'est l'interdiction sauf un texte. Al-aslu fil ibadati al-man'u illa binassin. C'est une phrase très courte, retenez-la. Hein? On pourrait même l'étudier ensemble. الأصل في العبادة المنع إلا بنص. الأصل في العبادة المنع إلا بنص. Et c'est ce que le cheikh ici, regardez, on répète la même phrase avec les preuves. C'est-à-dire que l'on s'arrête dans l'adoration jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Et cela est la condition du suivi. Pourquoi le cheikh parle de la condition du suivi? Eh bien, il explique. Car chaque adoration se doit de réunir deux conditions pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'il y a une des deux conditions, ton adoration l'acceptée ou pas? Hein? Que ce soit l'une ou l'autre. Hein? Si tu as la sincérité sans le suivi, c'est accepté? Non. Si tu as le suivi sans la sincérité, c'est accepté? Non. Donc tu te dois d'avoir les deux. Obligatoirement les deux pour que ton adoration soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça le but de l'adoration. C'est qu'elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ces deux conditions sont la première, la sincérité envers Allah exclusivement. Hein? D'être sincère dans ton adoration, que tu fasses ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et que pour lui. Deuxième condition, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? La conformité, al-mutaba'a. Et je vous ai rapporté un verset du Coran hier, dans Surat al-Kahf, qui est le dernier verset de Surat al-Kahf. Qui sait le répéter encore? Ah, فمن كان يرجو لقاء ربه ما شاء الله تختني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Hein? فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إخلاص. C'est le dernier verset. D'accord? Donc, on continue en disant, Cheikh Obed continue en disant, هذه المسألة الأولى وهي ثلاثة أصول ستأتي بعد معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام. Donc, Cheikh dit, hein, vous voyez qu'on a déjà fini la première, c'est quoi? Ceci est donc le premier point, et ce sont trois fondements qui arrivent après la connaissance d'Allah et la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam. Parce que ces points-là vont revenir hein, avec ce qu'on appelle un tafsil après, dans les chapitres qui vont suivre, avec un détail. La deuxième, الثانيه العمل به. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on répète encore ensemble. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه النبي عليه الصلاه والسلام ومعرفه دين الاسلام بالادله الثانيه العمل به ها والمساله الثانيه هي العمل بهذا الدين اي العمل بدين الله فان ثمره العلم العمل فالعلم دون عمل كشجره لا ثمره لها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا regardez والله regardez on va s'arrêter une minute sur cette parole après d'Abdul Mas'ud regardez pourquoi hein on est comme on est et pourquoi les sahaba étaient comme ils étaient كنا لا نتجاوز عشر ايات من فم رسول الله صلى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها الله اكبر واش كنا نو par rapport à ça فقال كنا نتعلم العلم والعمل فإن العلم مع العمل الصحيح بشروطه حجة للعبد عند الله عز وجل إذا اجتمع علم وعمل صحيح بشرطيه السابقين كان ذلك من العلم حجة للعبد عند ربه وإذا تخلف عن العلم العمل كان العلم حجة على العبد والعياذ بالله وكان الإنسان شبيها بالمغضوب عليهم وهم اليهود سموا مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم وإن كان عمل بدون علم كان الجهل والتخبط بالعبادة فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى انظر مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى برجل يجتمع أهل النار عليه تندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه والعياذ بالله فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم بالمنكر وآتيه وقديما قالوا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن هذه المسألة الثانية بعد العلم كان العمل به كيسك نودي الشيخ عبد الجابري حفظه الله تعالى وفي يعني سبحان الله dans ce livre إن شاء الله يعني des trésors à prendre d'où l'importance d'être présent au cours d'être présent au cours جزاكم الله خيرا يعني سوف يعني urgence وكذا ça peut nous arriver à tous والله c'est important يا إخوة طلب العلم يعني c'est une فريضة c'est un واجب et là on rentre dans le واجب ça touche au tawhid ça touche à l'aqidah qu'est-ce que peut nous distraire subhanallah de ce genre d'assises regardez اعلم رحمك الله أنه يجب علينا le cheikh il a dit t'as le choix il a dit il est obligatoire il t'incombe d'apprendre de quatre choses la première العلم si c'est pas la première comment tu peux avoir les trois autres يا أخي في الله أو أختي في الله pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se réveiller une fois pour toutes et apprendre notre religion, subhanallah Donc, la deuxième, c'est sa mise en pratique. C'est quoi? L'explication. Le deuxième point, c'est la mise en pratique, l'application de cette religion. C'est-à-dire pratiquer la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car le fruit de la science est la mise en application. La science sans pratique est comme un arbre sans fruit. Abdullah ibn Mas'ud, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, barakallahu fikoum, mais plutôt vos cœurs. Comme on a rapporté dans le surat Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Ouvrez les cœurs, que les cœurs soient prêts à recevoir ce genre de rappel. C'est quoi? C'est Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu arda, ce noble compagnon, parmi les ulama sahaba, parmi fuqaha sahaba, comme on a lu dans les livres de Cheikh Rabi', parmi les abadila min sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, nous ne dépassions dix versets de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que nous n'apprenions pas leur sens et les mettions en pratique. Allahu Akbar. Combien de sourates on connaît? Pour certains d'entre nous, sont peut-être hafal le Coran. Hein? Où on en est par rapport à la compréhension du Coran? Où on en est par rapport à cette mise en application du Coran? Où en est-nous par rapport à cette curiosité du Coran? On entend Kalam Allah, on n'est même pas curieux pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Pour ensuite le mettre en application. Et on se dit après qu'on aime le Coran, qu'on aime la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ici? Il dit, d'après Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, nous apprenions la science et la mise en pratique. Donc après, donc la première parole c'était, nous ne dépassions dix versets de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tant que nous n'apprenions pas leur sens et les mettions en pratique. Il dit ensuite, nous apprenions la science et la mise en pratique. Kun nata'allumu l'ilma wal amal. Allahu Akbar. Et ça, c'est nasiha de ma part. C'est là-dessus qu'on doit éduquer les enfants. C'est bien de leur apprendre des choses. Il faut leur apprendre à les appliquer. Hein? Mais d'abord qu'on s'éduque nous-mêmes avant qu'on éduque nos enfants. C'est quoi? C'est la science avec une pratique. Donc on a la fin de citation d'Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. La science avec une pratique correcte, avec ses conditions, est certes une preuve pour l'adorateur auprès d'Allah. Hein? Si la science est sa pratique correcte avec ces deux conditions précitées, c'est lesquelles? En arabe, l'ikhlas al-mutaba'a, la sincérité, le suivi, la conformité à la sunna. Hein? Si la science et sa pratique correcte avec ces deux conditions précitées se retrouvent, alors cette science est une preuve pour l'adorateur auprès de son Seigneur. Si la mise en pratique fait défaut, alors la science est une preuve contre l'adorateur. Et quand on pense, et qu'on s'arrête une minute, qu'on pense à tout ce qu'on connaît, qu'on n'a pas encore appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait peur, quoi. Et l'individu ressemble alors à ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ce sont les juifs. Ils furent appelés ceux qui ont encouru la colère d'Allah, car ils n'ont pas mis en application leur science. Et si la mise en pratique est présente, mais sans science, hein, on a les deux, on a les contraires. Il y a des gens qui ont la science, mais qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui ont la pratique, mais qui n'ont pas la science, qui pratiquent sur une ignorance. Hein. C'est alors l'ignorance et le pataugeage, tachabout, comme on dit en arabe dans l'adoration. L'individu ressemble alors aux chrétiens, car ils adorent Allah avec ignorance et égarement. Hein? Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, ce grand imam de la communauté, par les grands imams de la communauté, quand la fallait fasse miséricorde, a dit, il disait, hein, celui qui est perverti parmi nos savants ressemble aux juifs. Et celui qui est perverti parmi nos adorateurs ressemble aux chrétiens. Pourquoi? Parce que l'adorateur, hein, il va adorer sans, c'est ici le cas, en tout cas ce que dit le cheikh ici, c'est, dans ce cas qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est l'adorateur qui adore sans ilm, naam, sans avec sur ignorance. Et le savant, hein, c'est qui? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est le savant qui a de la science évidemment et qui ne la pratique pas. Et c'est rapporté par Ibn Taymiyyah, hein, donc c'est lui qui a rapporté la parole de Soufyan ibn Uyayna dans Al-Fatawa, volume 1, page 197. Et dans le hadith authentique, hein, et ça, ça va, inch'Allah, entre nous, inch'Allah, entre musulmans, entre des gens de la sunna, ça va nous réveiller un peu, inch'Allah ta'ala. Un homme est amené, et les gens de l'enfer se regroupent autour de lui. Ses tripes sont répandues. Il lui demande, « Oh, un tel, ya foulan, ne nous ordonnais-tu pas le convenable, le bien ? Hein ? Ne nous enjoignais-tu pas le convenable ? Et ne nous interdisais-tu pas, ou ne réprouvais-tu pas ? Ne nous réprouves-tu pas le mal, hein, c'est irréprouvable, al-munkar? Il répondit, je vous ordonnais le bien et ne le faisais pas, et je vous interdisais le mal et je le faisais. Hein? Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, dans son sahih, livre du début de la création, hein, akhraj al-Bukhari, kitab badl al-khalq, bab sifat al-nar wa annaha makhlouqa, Ma'al-Fath, la référence qu'il cite, c'est dans Al-Fath avec Fath al-Bari, ou Muslim Kitab al-Zuhd, Bab, Uqubat, Man Ya'mur bil-Ma'ruf wa la Yaf'aluh, wa Yanha Anil Munkari wa Yaf'aluh. Donc, on va citer les sources rapportées par Al-Bukhari dans son Sahih, livre du début de la création, chapitre La description de l'enfer, et qu'il est créé, et que l'enfer est créé. Hadith numéro 3267. Hein? Avec Fath al-Bari, c'est la référence qui est dans Fath al-Bari, et par Muslim, dans le livre de l'ascétisme, Kitab Zuhd, chapitre du châtiment de celui qui ordonne le bien et ne le fait pas, et réprouve le blâmable mais le fait, numéro 7408. Et c'est avec l'explication de l'imam Nawawi. Donc quand je vous donne toujours des références, c'est pour aller voir. Allez lire un peu ce que les imams, comme Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, et qu'est-ce qu'a dit l'imam Nawawi dans Sharh Muslim. Hein? Il disait anciennement, c'est un poème, « Alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'addabun min qabli ubbadil watan » Un savant qui ne pratique pas sa science est châtié avant les adorateurs d'idoles. Regardez, je répète le poème. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Hein? Le deuxième point était, après la science, sa mise en application. Inch'Allah, on a le temps, Inch'Allah, on continue. Donc, on rentre maintenant dans le troisième point. المسألة الثالثة. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a su? Si on a su, et si on s'est acquitté de cette obligation, et qu'on l'a mise en pratique, on doit faire quoi? On doit appeler à cela. Hein? Ad-da'watu ilayh. Shir continue en disant: Alima fa'amila fakana alayhi an yad'a ila ad-din alladhi manna Allah alayhi bi ma'rifati wal 'amali bih. Wa min hana naqul ma adabu ad-da'iyah. Allahu akbar, c'est un point très important. Quelles sont les préséances, ou à la fois les bienséances, les comportements que le da'i, ce qu'on appelle da'i, le prêcheur, celui qui appelle à Allah, parce qu'il appelle pas à lui-même, il appelle pas un groupe, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. Hein? On appelle à Allah, qu'on appelle, c'est important à se rappeler ça, qu'on appelle, on appelle à Allah, on appelle pas à nous-mêmes, on appelle pas un groupe. Hein? Quelles sont les bienséances, les comportements que dont doit se doter, se parer, hein? Le da'i, et bien c'est ce qu'on va voir ici, inshallah. للداعيه الى الله آداب كثيره ولعلنا نذكرها اهمها. اولا الحرص على هدايه الناس وتبليغهم دين الله. ثانيا الرفق, فان الرفق لم يكن في شيء الا زانه ولم ينزع من شيء الا شانه. يشير الشيخ حفظه الله, دونك لو فرير ici qui fait le ta'liq, nous dit, الى ما اخرج الامام احمد في المسند, hein, من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ولا عزل عن شيء إلا شانه. صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ثالثا الحكمة. رابعا الموعظة الحسنة. خامسا المجادلة بالتي أحسن. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. Regardez comme la définition on prend ici. C'est quoi le hikma? Wad'u shi fi mawdi'ihi. Wal mu'idatu al hasana at-targhib wa at-tarhib. Vous êtes normalement capable, apte maintenant à définir c'est quoi at-targhib wa at-tarhib. C'est quoi le mu'ida, parce qu'on les a définis dans le livre de Cheikh Rabi'. Yasta'milu kullan minhumā fi mawdi'ihi. Wal mujadalatu al hasana aw billati hiya ahsan idha kana al mad'u yahtaj ila mujadalatin yuzilu 'anhu ash-shubhah. يسلك أقرب طريق لوصول الحق إليه. سادسا, sixième parmi les bienséances, الفقه وعلمه بالمأمورات والمنهيات. سابعا, بيان الحق للناس وحثهم عليه بالأدلة وبيان الباطل أيضا وتحذير الناس منه بالأدلة. ثامنا, لا يذهب نفسه حسرات على من لم يقبل هدى الله فذلك مما نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عنه. قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فعفوا, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. سورة فاطر. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh? On va peut-être terminer d'abord avant de traduire. Donc ici le Cheikh dit لأنه قضت حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى أنه يحيي من حي على بينه ويهلك من هلك على أو يهلك من هلك على عن بينه. تاسعا التصدي لشبه المبطلين وأهل الأهواء وردها بالقوة وتحذير الناس منها, فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولنأخذ مثالا واحدا. فإنه حين خرج إلى حنين بعد الفتح مر الناس على شجرة يقال لها ذات أنواط، يعلق المشركون بها أسلحتهم تبركا. قال حدثاء عادي بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكتفي بقول هذا حرام وأنتم مسلمون وهذا من عمل المشركين، بل قال كلمات كان لها أبلغ الوقع على نفوس الناس وأبلغ الأثر في زجرهم واجتثاث هذه النية في من قلوبهم، لأن هذا العمل شرك. قال: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل، ويسير على الرواية، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، سورة الأعراف. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والصح العلامة الألباني كما في المشكات. وهكذا سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإنه حينما تروج بدعة وتنتشر يواجهونها بشدة. من ذلكم أنه لما أظهر معبد بن خالد الجهني مقالة القدر بالبصرة استنكرها الناس، وجاء بعض التابعين لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في آخر ما بقي أو من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره الخبر، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر عندنا أناس يقولون لا قدر والأمر أنف. قال لهم: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. زجر شديد جدا. الحديث أخرج مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. هذه من آداب الدعية إلى الله، وهذه المسألة الثالثة. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Obed al-Jabiri hafidhahullah ta'ala dans ce troisième point? Le troisième point, c'est le fait, après la science et la mise en application, c'est d'y appeler. Il a su puis mise en pratique. Il lui incombe donc d'appeler à cette religion. Hein? Et ça me rappelle, subhanallah, en passant, une parole de Cheikh al-Uthaymeen dans Al-Qul Mufid, Sharh Kitab al-Tawhid. Il dit: si tu aimes quelque chose, tu vas y appeler. Ça suffit. Si tu aimes quelque chose, tu vas y appeler. Et Cheikh nous dit ici qu'il appelle à cette religion dont Allah l'a comblé en lui faisant connaître et mettre en application. Si tu sais, si tu as mis en application, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah t'a comblé avec ce bienfait. Donc appelle à cette religion. Et on peut dire ici quelles sont les bienséances du prêcheur. Quels sont les comportements, l'adab que le da'iya se doit d'avoir? Eh bien, celui qui appelle à Allah se doit d'avoir beaucoup de bienséance. Et peut-être pourrons-nous en citer les plus importantes. La première, qu'il désire ardemment la guidance des gens et leur transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, la douceur, al-rifq. Car la douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et n'est pas retiré d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Hein? Et un autre de bas de page ici du frère qui a fait le Jazallahu Khairan, le Cheikh fait référence évidemment au hadith très connu d'Aïcha radiallahu anha, rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad, hein? Volume 6, page 206 de l'édition Al-Maimouniya, d'après Aïcha radiallahu anha wa ardaha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est évidemment une traduction approximative: la douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et n'est pas retiré d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Ce hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami' numéro 5654. Troisième, après le fait qu'il désire ardemment la guidance des gens et la transmission de la religion et la douceur, c'est quoi? C'est la sagesse. Et on va définir après c'est quoi la sagesse. Al-Hikma, hein? Parce que des fois on croit que la sagesse c'est tout le temps d'être doux, c'est pas tout à fait le cas. Hein? Quatrièmement, le bon rappel, Al-Mu'id Al-Hasana, de débattre de la bonne manière, al-mujadalatu billati ahsan. Maintenant, définissez quoi la sagesse. La sagesse, c'est de placer chaque chose à son bon endroit. Comme disait Cheikh Mohamed Amel Jami, rahmatullah alayh, hein, le grand Cheikh de Médine, rahmatullah alayh, qui était appelé par les autres chouyours al-Ustad, et Cheikh de notre Cheikh Fal Ismail, hein, et de nombreux chouyours, et spécialistes dans l'aqida, hein, rahmatullah alayh. Hein, et qui était directeur des hautes études dans la faculté de l'Aqida à l'université de Médine, il disait: Wad'u lini fi mawdi'ihi وضع الشدة في موضعه أو في موضعها. C'est-à-dire quoi? C'est que tu sois doux quand il faut et que tu sois dur quand il faut. On voit dans l'in, fait mon dire l'in, on voit dans le shiddati, fait mon dire shidda. La sagesse, c'est de placer chaque chose à son bon endroit. Le bon rappel, al-mu'idatul hasana, c'est l'incitation, ce qu'on appelle at-targhib ou at-tarhib. At-targhib, c'est le fait d'effrayer. Vous avez déjà expliqué c'était quoi at-targhib? Ou plutôt at-tarhib, le fait d'effrayer. Et at-targhib, c'est le fait d'inciter, l'incitation. Hein? At-targhib, c'est l'incitation, le fait de t'inciter au bien. Hein? At-targhib, c'est le fait de t'effrayer, de te faire peur. Hein? Et dans la sunna, on voit que le prophète sallam faisait toujours les deux. Et c'est comme ça que le da'is doit faire. Il ne doit pas juste faire désirer les gens. Non, il doit leur faire avoir peur également. Hein? Les deux. Et justement, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? Avec la science, c'est là qu'on voit la chose. Qu'il utilise chacun des deux moments, des deux choses, au moment voulu, au bon moment. Avec quoi? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Bien évidemment, avec la science. Avec l'ilm, avec l'hikma. Le bon débat, la bonne discussion, al-mujadalatu billati ahsan, ou discuter de la meilleure des manières, si celui qui est appelé, ou bien à qui la da'wa est faite, a besoin d'une discussion pour dissiper les ambiguïtés. Eh bien, on prend la voie la plus proche pour lui amener la vérité. Évidemment, ce n'est pas n'importe qui s'assoit avec lui. Hein? C'est quelqu'un qui a de la science. Sixième bien science, le fiqh. Et le cheikh dit ici, le fiqh, c'est quoi qu'il a voulu dire ici? C'est qu'il connaisse al-ma'murat wal-manhiyat, les ordres et les interdits. Si tu vas appeler les gens à appliquer les ordres et à délaisser les interdits, comment tu veux le faire si tu ne connais pas les ordres et les interdits? C'est pour ça ici, il y avait un groupe de Jama'at Tablir ici qui a accosté un frère ici il y a quelques jours. Mais j'aime pas trop raconter des histoires dans mes cours, mais c'est important ici. Il y a quelques jours ici, ils étaient en train d'accoster un frère. Et, alhamdoulilah, un frère et moi, on s'est arrêté, on a discuté avec eux, etc. On a essayé en tout cas de discuter avec eux. Il ne nous a pas laissé trop le loisir d'en placer une, mais bon. On a essayé de lui faire comprendre que Al-ilm, shartun asasi fi da'wa. Que l'ilm, c'est un shart. Et je lui citais le verset du Coran. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Il n'a pas voulu comprendre que c'était un shart. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne comprenait pas parce que ce qu'il disait, ça ne tenait pas la route du tout. D'accord? L'ilm, c'est ça les gens de la sunna, la da'wa, elle est basée sur la science. Parce que lui, en croyant faire le bien, il appelle à la bid'a sans même s'en rendre compte. وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعَ. Comme on dit. Et il croit qu'il fait bien. Pourquoi? Justement parce qu'il n'a pas la science, et pas la science correcte. Il croit qu'il a une science. Expliquer le septième point, septième bien science, expliquer, montrer la vérité aux gens, et les inciter avec les preuves. Et montrer le faux également. Et mettre en garde contre le faux avec les preuves. Et pas comme certaines personnes qui disent, non, on montre juste le bien, on ne met pas en garde contre le faux. Là, la parole du Cheikh ici est claire. Huitième, que son âme ne se répande pas en regret pour ceux qui n'acceptent pas la guidance. Car la guidance, car cela fait partie de ce qu'a Allah. Celui qui n'accepte pas la guidance, et le fait que tu ne répandes pas ton âme parce qu'il n'accepte pas la guidance en regret, cela fait partie de ce que Allah a interdit à son prophète, alayhi salatu wassalam. Comme dans la traduction du sens du verset 8 de Surat Fatir, et quoi, celui qui a acquis, on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Quand ton âme ne se répande pas en regret pour eux, Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Donc surat Fatir verset 8. Car la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi établie par Allah sont que sur preuve périsse celui qui doit périr et vive sur preuve celui qui doit vivre. Toi, tu fais ton travail de da'i. Et c'est Allah qui guide les cœurs. Neuvième bienséance ou neuvième comportement, c'est qu'il affronte les ambiguïtés des gens des passions et qu'il les réfute avec force. Et qu'il mette en garde contre les gens, contre ces ambiguïtés. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes fait cela. Il y a des gens, subhanallah, quand tu les écoutes, tu peux mettre en garde sur rien du tout. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. L'un des autres exemples, c'est le prophète, il n'a pas arrêté de mettre en garde sur le bâtel. Et c'est pour ça qu'on le fait. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Hein? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a certes fait cela. Prenons un exemple. Regardez le tarbiya de Cheikh Abdel Jabiri. L'adilla, les exemples. Hein? Lorsqu'il se rendit à Hunayn, après le fath, c'est-à-dire après la victoire, des gens passèrent près d'un arbre. Hein? Ayant pour nom, étant appelé Dhatu Anwat. C'est un hadith qui est très connu, qui est repris également dans le Kitab al-Tawhid. Les associateurs y accrochaient leurs armes, y cherchant la bénédiction. Ce qu'on appelle Tabarruk. Hein? Et je vous ai défini à Tabarruk dans Sharh Kitab al-Tawhid de Sheikh Najmi, dans le livre de Sheikh Rabi'a. Vous vous souvenez? C'est quoi Tabarruk? Qui sait me rappeler c'est quoi Tabarruk? Personne ne se rappelle? Cherche la bénédiction. Mais c'est quoi le baraka? C'est chercher un rajout, il avait dit. Un ziyada. Hein? Revenez, Inch'Allah, vos notes. Inch'Allah. Revoyez, Inch'Allah. Hein? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a répondu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Parce que les associateurs accrochaient leurs armes, cherchant la bénédiction, et des nouveaux convertis, des convertis depuis peu à l'islam, dirent, ô messager d'Allah, désigne-nous un datou anouat comme ils ont un datou anouat. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas suffi à dire, c'est interdit, vous êtes musulman, et ceci fait partie des actes des associateurs. On répond l'adhan et après on continue, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On termine vite, Inch'Allah, ce point-là, Inch'Allah, et on va terminer là-dessus aujourd'hui. Donc, je répète, donc des convertis depuis peu à l'islam dirent au messager d'Allah, désigne-nous un datou anouat comme ils ont un datou anouat. Qu'a répondu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas suffi à dire, c'est interdit, vous êtes musulmans, et ceci fait partie des actes des associateurs. Mais il dit plutôt des paroles qui eurent le plus grand effet à l'esprit des gens. Hein, le reprochant de la manière ayant le plus grand effet et qui extirpe cette intention de leur cœur, car cet acte est une association. Il dit, Allahu Akbar, ce sont certes les voies. Inna sunan. Hein, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédé par celui qui détient mon âme entre ses mains. Hein, vous avez dit comme les compagnons de Moïse, ont dit à Moïse, désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes un peuple ignorant. Hein, c'est la traduction du sens de Surat al-A'raf, verset 138. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, volume 5, numéro 218. Et il a été jugé authentique par l'éminent Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, dans Al-Mishkat, numéro 548. Et telle était la voix des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui leur ont succédé, tabi'un. Lorsqu'une innovation était propagée et répandue, ils y faisaient face avec dureté. Parmi ceux-là, à titre d'exemple, encore un exemple, encore un dalil si vous voulez. Hein? Lorsque Ma'bad ibn Khalid al-Juhani a exposé sa parole sur la prédestination à Basra, à Bassora, les gens l'ont réprouvé. Et certains tabi'un, les successeurs des compagnons, hein? Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a rencontré les compagnons, d'accord ? Se sont rendus chez le fils de Omar, ibn Omar, ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, hein, qu'Allah les agrée tous deux, radiallahu anhuma. Et il était alors parmi les derniers des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était encore en vie. C'est un hadith qui est très connu, et c'est le premier hadith dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Iman. Ils l'informèrent et lui dirent, regarde, tawfiq min Allah, ils cherchaient un compagnon sur qui sont tombés, Abdullah ibn Omar. Il y en a un qui s'est mis à sa droite, un à sa gauche, comme il rapporte dans le hadith, ce que le shir cite pas ici, mais revenez à Sahih Muslim, et lui ont posé la question, et regardez la réponse de shir, le compagnon Abdullah ibn Omar. Hein? Ils lui dirent, oh Abu Abdurrahman, des gens sont apparus chez nous qui disent qu'il n'y a pas de prédestination et que la chose est unuf, amr unuf, c'est-à-dire musta'nafun. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? L'imam Nawawi dans son explication de Sahih Muslim a dit, c'est-à-dire musta'naf, c'est-à-dire que la chose n'est pas prédestinée et qu'Allah ne la sait qu'après qu'elle soit arrivée. Wal'iyadu billah. Hein? Il leur répondit, faites-leur savoir. Regardez la réponse. Faites-leur savoir, hein, que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. Par Allah, ils jurent par Allah. Un sahabi qui jure par Allah. Par Allah, si l'un d'entre vous possédait comme la montagne de Uhud en or, hein, et pour ceux qui ont été à Uhud, ils ont vu qu'est-ce que ça représente, hein, en or. En tout cas, qui ont en Arabie Saoudite et qui ont l'occasion de voir Uhud, hein, et qu'il l'a donné dans la voie d'Allah, cela ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination, son bien et son mal. Mais ce hadith est rapporté par un musulman, comme je vous l'ai dit, livre de la foi, chapitre de la mise en évidence de l'Iman, l'Ihsan, l'Islam. Et c'est le hadith numéro 1 dans Sahih Muslim. Ceci est donc un reproche très dur, hein. Ceci fait partie des bienséances de celui qui appelle à Allah. Hein? Quand tu as une bid'a qui est répandue ou quelque chose qui est propagé, tu te dois directement de la réfuter et de mettre en garde sur cette bid'a-là. Et c'est ça la voie des plus prédécesseurs et c'est la voie de Muhammad alayhi salatu wasalam. Hein? Et donc c'est le troisième des quatre points. Et Inch'Allah, prochain cours Inch'Allah, hein, comme ça je vous laisse l'occasion de faire le wudu et de prier les deux rak'ahs de la sunna entre l'adhan et l'iqama. On va s'arrêter là. Le quatrième point, ce sera alors, Inch'Allah ta'ala, patienter sur le mal encouru lors de la da'wah. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.